Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le plateau de Studio Zef. Aujourd'hui, dans la rubrique Tous au poste, on reçoit l'association Nos mains vous parlent. Et pour nous parler de cette association, toute jeune association, puisqu'elle n'a que quelques mois, 2-3 mois, autour du plateau, il y a Carole Fouché et Corinne Blanchard. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Alors, je vais vous laisser présenter l'association, hein, et puis le but de votre venue aussi.
Donc, notre association, hein, Nos mains vous parlent, c'est une association loi 1901. Donc, l'objet de l'association a pour mission d'aider les parents d'enfants sourds ou malentendants à leur intégration dans le milieu scolaire. L'idée nous est venue, tout simplement, lors d'une formation à visuel LSF à Orléans. Nous avons échanger sur pourquoi cette formation. De ma part, moi, Corinne, j'ai un petit-fils sourd et Carole a aussi une fille qui a un handicap de surdité. On en est venu à constater qu'au niveau des écoles, il n'y a pas grand-chose pour les enfants sourds ou malentendants et que le Loir-et-Cher est démuni de moyens sur le plan scolaire. Et du coup, notre association a vu le jour en août 2019 parce qu'il était urgent de faire quelque chose.
Carole, vous voulez continuer?
Voilà, donc moi j'ai une petite fille qui est malentendante.
Oui.
Et c'est vrai que c'est très compliqué, le cursus scolaire, les difficultés qu'on rencontre. Et la surdité, c'est quoi? La surdité, c'est un état pathologique de l'audition qui est caractérisé par une perte partielle ou totale de la perception des sons. Quelqu'un qui entend est en audition normale. Il existe 4 seuils de surdité. Vous avez la première, c'est la légère. La seconde, c'est la moyenne. La troisième, c'est la sévère. Et la quatrième, c'est la profonde. Donc, il existe diverses causes. Donc, ça peut être dû à des otites à répétition, une maladie X ou Y, des traumatismes sonores tels que l'exposition au bruit, les engins de bâtiments, par exemple, et aussi les musiques fortes, donc entre autres les discothèques, auxquelles le son est quand même assez bruyant. Mmh. Ça peut être aussi accidentel, dû à un accident de voiture ou autre. Certains médicaments aussi peuvent entraîner une surdité. On ne sait pas trop encore lesquels réellement. Le vieillissement, tout naturel. Voilà. Donc pour améliorer la vie quotidienne, il existe différents appareils, hein, donc les appareils auditifs dits standards, les implants cochléaires. Et il y a aussi la langue des signes française qui a un rôle important. Donc c'est important d'apprendre la langue des signes et il y a très peu de personnes qui l'apprennent. Alors, c'est bien dommage.
Alors pourquoi il y a très peu de personnes qui l'apprennent?
Parce que c'est pas tellement reconnu comme langue à part entière. La langue des signes française est une langue, et comme la langue française, c'est la même chose. La grammaticale n'est pas construite de la même façon. Ça a aussi un coût, faut le savoir que c'est onéreux. Mais je dirais que pour bien se former, il n'y a pas de prix. Et qu'il existe différents dispositifs pour qu'on puisse faire cette formation.
Alors justement, par rapport à votre association, est-ce que vous pouvez, si quelqu'un vous appelle, hein, si des parents justement cherchent une école, ou tout simplement pour des adultes qui veulent apprendre la langue des signes française, est-ce que vous pouvez les aiguiller? Est-ce qu'il en existe dans le Loir-et-Cher par exemple?
Alors dans le Loir-et-Cher, vous avez deux associations qui existent. Donc sur Blois, c'est Le Calme et Partageons les signes, qui font des initiations à la langue des signes, et qui font un complément. Après, on peut les diriger vers le CIS, qui est le Centre d'accueil et d'information sur la surdité, qui a les moyens, eux, et les compétences, puisque ce sont des professionnels de bonne catégorie, on va dire, qui sont là aussi pour nous aiguiller, nous en tant que parents, mais aussi ceux qui veulent apprendre la langue des signes, il n'y a pas de souci. Et le conseil, c'est aussi d'aller sur Orléans, à Visuel LSF, auquel là, c'est une équipe
formidable.
Excellent.
Vous avez une bonne expérience apparemment.
C'est un accueil qui est chaleureux. On est dans un monde de sourds, c'est déroutant, c'est enrichissant. Et ils ont un humour.
Mais c'est un vrai apprentissage humain surtout.
C'est un échange. Hein. Ouais. Ouais.
Alors pour revenir sur cette surdité, vous disiez qu'il y avait 4 niveaux.
Oui.
Mais ça veut dire que ça peut être accidentel, ça veut dire aussi que ça peut être génétique. Et est-ce que ça veut dire aussi, parce qu'on n'est pas, il y a des gens qui sont sourds suite, effectivement, comme vous avez dit, à un accident, donc c'est tardivement.
Oui.
Est-ce que... Pour prendre votre cas, par exemple, votre petite fille est sourde de naissance, est malentendante de naissance.
Alors, ma fille est atteinte d'une maladie rare qui n'est pas connue en France, malheureusement, et qui entraîne une surdité. Donc, ma fille est en surdité moyenne, mais qui est fluctuante. Donc, elle est appareillée, mais il y a des moments voilà, où même appareillée, elle n'entend pas correctement. Donc, elle utilise la langue des signes pour pouvoir parler et s'exprimer quand ça ne va pas. Après, malheureusement, comme toute maladie rare, et je ne suis pas la seule qui entraîne une surdité, malheureusement, ces maladies rares sont très, très peu connues, donc elles arrivent tardivement. Oui. Donc c'est tardif dans tout ce qui est éducation, donc même au niveau de l'école. Certes, elle a été suivie par le CAMPS, mais à cette époque-là, on n'avait pas le diagnostic de fait. Donc c'est pour ça que tous les enfants qui passent par le CAMPS sont aussi dirigés vers certaines structures. Maintenant, on ne les a pas toutes, on ne les connaît pas toutes. Vous avez différentes structures. Il y a le CAMPS, il y a le CEFIS.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le CEFIS. Je laisse la parole à Corinne.
D'accord.
J'essaie de retrouver mes petits papiers. Alors, le CEFIS, c'est le service d'accompagnement familial et d'éducation précoce, qui est un service lié à l'AIDAFI. Ça, je ne sais pas.
Moi non plus.
Mais c'est des services officiels, quoi.
Oui. Hein,
ils sont vraiment là pour aider dans la scolarité, dans le quotidien des enfants. Hein, le camp, c'est de 0 à 3 ans. Tu me reprends
Voire peut-être plus, il me semble 6 ans maintenant. Jusqu'à 6 ans, il me
et
semble.
Le CEFIS, c'est au-delà.
Et le CEFIS, c'est au-delà.
Ouais.
Après, il faut être dirigé vers les bonnes structures.
Voilà, alors qu'on comprenne bien, ce genre de structure aide ponctuellement. Ce n'est pas une structure qui accueille, par exemple, ce n'est pas un accueil de jour où les enfants peuvent venir passer la journée, par exemple, faire des activités, alors apprendre la langue des signes. Voilà. Ce n'est pas ça.
Non,
hein.
Du tout.
C'est par demi-journée.
C'est en demi-journée. Mmh. Les enfants donc, sont scolarisés dans des écoles lambda. Et donc là, en l'occurrence, pour le CEFIS, la chance qu'on a, c'est qu'on a l'école Raphaël Perrier à Blois, qui a une ULIS, qui est des troubles des fonctions auditives, auxquels voilà, les enfants vont au CEFIS. Bien sûr, il faut que les enfants requièrent du CEFIS, parce que tous les enfants ne peuvent pas y adhérer.
Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'il y a des degrés de surdité, et un enfant qui a une surdité moyenne ne peut pas prétendre tout le temps à aller dans ces structures-là. Mmh. Et on privilégie aussi déjà les rendez-vous spécialistes tels que les psychologues, les psychomotes, les orthophonistes en libéraux, qui ont déjà un rôle qui est très essentiel et qui font que par leur expérience et qui ont les enfants déjà depuis longtemps, de les changer de structure, des fois ils préfèrent les laisser avec les libéraux qui sont déjà bien ancrés dedans, que plutôt les rendre dans un... Voilà, au niveau du CEFIS, et faut-il aussi, c'est que faut qu'il y ait de la place.
Ouais.
Parce que les places sont chères.
Oui.
Et les délais d'attente, des fois, sont trop longs. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas, parce que c'est comme ça qu'ils aimeraient bien faire autrement. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est encore un petit peu difficile. Donc voilà, et après...
À votre connaissance, pour ce qui est juste du milieu scolaire, pour la primaire par exemple, donc vous avez parlé de Raphaël Perrier à Blois, est-ce que d'autres écoles accueillent même...
Alors dans le Loir-et-Cher et sur Blois, non.
Oui, d'accord.
Après, s'il y a les IME, mais c'est des IME, il y a l'IME de Hook, c'est l'Institut médico-éducatif.
Oui.
Mais là, c'est des handicaps diverses et variés, y compris la surdité. Mais concrètement, dans le Loir-et-Cher, en ULIS, la trouble des fonctions auditives, on n'a pas. À part Raphaël Perrier, pour le côté primaire. Ce qui est de la maternelle, tout ça, ça reste encore très, très complexe. Malheureusement, pour le collège et le lycée, sur Blois et le Loir-et-Cher, il n'y a rien. C'est-à-dire que nos enfants sont obligés d'aller à Tours ou à Orléans. Donc soit ils sont dirigés, selon le degré de surdité, vers l'IRCOV, à Tours, soit à l'IRJS, l'Institut Régional des Jeunes Sourds à Orléans. Et ce que je viens d'apprendre, c'est qu'on a un collège et un lycée qui s'appelle Léonard de Vinci à Tours, qui ont maintenant une ULIS de la trouble des fonctions auditives depuis un petit peu de temps maintenant, il me semble un an, deux ans, mais je vous dirais des bêtises, honnêtement.
Oui, mais ça existe en tout cas pour les collégiens.
Mais du coup, ça veut dire que nos enfants sont obligés de faire entre 50 et 100 km selon leur sectorisation locale. Malheureusement, c'est un aller, mais il faut compter le retour. Donc, on arrive à 200 km par jour. C'est compliqué pour nos enfants. Quelqu'un qui est sourd n'a pas les mêmes capacités que quelqu'un qui est entendant. C'est-à-dire qu'au niveau de la concentration, c'est énorme. Qu'au niveau fatigabilité, c'est aussi important. Parce qu'un enfant sourd doit se concentrer doublement, doit être attentif à ce qu'on lui signe, puisqu'en général, voilà, y a des personnes qui signent. Mais ceux qui sont malentendants, qui ont dans les troubles de la fonction auditive, doivent être encore plus vigilants, c'est-à-dire qu'il faut se concentrer. C'est dans une classe auquel il peut y avoir du brouhaha. C'est des instituteurs qui sont à leur écoute, qui sont là, présents. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont fatigués.
Mmh. Oui.
C'est compliqué pour eux.
Oui. Et donc, pour qu'on comprenne bien, mm-hmm. pour faire un peu le on fera pas le tour de la question, on pourra pas.
Non. Je suis pas spécialiste.
Voilà, tout à fait. Mais vous avez une expérience donc personnelle qui compte, mm-hmm. hein. Donc voilà. Donc l'objet de votre venue aussi, c'est pour dire qu'il y a un manque cruel de structures accueillantes pour les enfants sourds et voire aussi pour les adolescents.
Alors, sourd ou malentendant. Pardon. Hein.
Ah, oui, tout à fait.
De la maternelle
De la maternelle au lycée et voire plus, parce que...
Voilà. Mais justement, parmi vos connaissances, j'imagine que vous discutez beaucoup avec les autres parents concernés par ce problème. Est-ce qu'ils ont la même demande? Est-ce qu'ils ont fait le même constat que vous? Alors, vous avez un retour par rapport à ça?
Aujourd'hui, il est difficile d'avoir un retour, parce que déjà, on est naissant. Donc l'association, elle n'est encore pas connue. Donc le but, c'est aussi de faire connaître notre association et de dire, on est là pour faire un relais, on est là pour écouter vos difficultés, on est là pour entendre et faire remonter les choses auprès des personnes et des administrations compétentes, en leur disant, attention, petite sonnette d'alarme, on fait quoi de nos enfants? On les met où? C'est quoi leur devenir? Ils ont aussi d'un but, nos enfants, ils ont aussi un but. Il y a des enfants qui veulent être... Moi, ma fille veut être vétérinaire. Mais les structures sont pas adaptées à elle. Alors, pas adaptées à elle, mais pas adaptées à d'autres enfants. Et d'aller sur Tours ou sur Orléans, je trouve que pour la fatigabilité de nos enfants et leur épanouissement, c'est compliqué. Alors, un jour, quelqu'un me dit, mais pourquoi vous ne les mettez pas en internat? J'ai répondu à cette personne que l'internat était difficile pour nos enfants qui sont sourds ou malentendants parce qu'ils ont besoin du cocon familial. Ils ont besoin de se sentir en sécurité. Ils ont besoin de retrouver leur espace à eux. Et d'être en internat, c'est bien, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui est malentendant, qui a pareillé, qui a ses appareils toute une journée, surtout pour un enfant, qui a un brouhaha pas possible dans la classe, les sonnettes, des sonneries, on va dire, dans les collèges, même autres, les initiations à la sécurité, aux alarmes incendies, mais aussi aux attentats et au reste. Un enfant qui est malentendant, c'est très compliqué, parce que l'appareil fait que ça amplifie le son. Comme les implants cochléaires, sauf qu'au bout d'une journée, ils sont fatigués, quoi. Ils n'en peuvent plus.
Oui, c'est beaucoup de sollicitations.
C'est beaucoup de sollicitations dans tous les sens. Ils développent d'autres sensations, c'est-à-dire qu'un téléphone qui va vibrer, ils vont le sentir. La musique, alors ça nous fait rire quand on entend qu'un sourd ne peut pas aller en boîte de nuit parce qu'il n'entend pas. Ouais, mais il déclenche quoi? Les vibrations de la musique. Un avion qui passe, on sent les vibrations d'un avion qui passe, le train qui passe à côté. Coco, je pense que Coco va me...
Oui, non, mais c'est clair. Moi, j'aimerais revenir sur le fait
Corinne.
Que vous demandiez si les parents venaient nous voir. Bon, c'est vrai que notre association est toute neuve, mais il y a aussi le fait qu'il faut savoir que la surdité, c'est aussi tabou. Oui. On en parle très peu. Les gens qui sont vraiment touchés par ça... Ils vont avoir du mal, ne serait-ce qu'à faire les démarches administratives.
Alors, quand vous dites les gens touchés par ça, ça
les
peut
familles,
être, voilà,
les
ça
parents.
Peut être, voilà, c'est les parents,
moi,
les familles.
Moi, je suis grand-mère. Oui. Voilà, hein, ça peut être même des amis de la famille.
Tout à fait.
Et pour vous, ça a été difficile d'en parler?
Pour moi, non. Mais pour ses parents, pour mon petit-fils, oui.
Ça a été difficile.
C'est très compliqué.
Ouais. Le diagnostic de la surdité ne peut pas se faire chez un nourrisson de manière sûre.
Non, il y a des tests qui sont faits.
Tests,
les tests d'audition sont faits, mais malheureusement, je dirais que des fois, on passe à côté. Moi, on m'a dit que ma fille, tout allait bien.
Et puis des fois, l'enfant est instable et hyperactif.
Voilà.
Donc
compliqué.
Imaginez dans un caisson un enfant qui n'est déjà pas bien.
Le test se fait dans un caisson.
Oui.
Pour
les audiogrammes,
petits.
Oui.
Les audiogrammes, c'est
Les audiogrammes se font dans un caisson auquel il n'y a aucun bruit qui est filtré.
Mm-hmm.
Donc les enfants ont un casque sur les oreilles. La personne qui est en face, elle pose des questions, elle prononce des mots. Donc il y a des mots qu'ils vont entendre, il y a des mots qu'ils ne vont pas entendre. Moi, je me rappelle une anecdote, hein, pour une voiture. Ma fille a entendu le mot « cature ». Donc c'était difficile. Les apprentissages à l'école ont été difficiles. Et puis, il faut savoir qu'un enfant qui a une otite, peu importe qu'il soit sourd ou pas, ça fait mal. Et ça les gêne aussi dans les ouïes, ça les gêne dans tout. Ils développent, donc là, voilà, ils développent les autres formes de sens. Mais voilà, ça reste tabou, c'est vrai.
Alors, justement, par rapport à ce tabou, quand vous dites ça, c'est quoi qui est tabou ? C'est parce que la surdité est associée au mot handicap, et du coup, c'est plus la vision du handicap de la société sur ce problème. Ouais. Et ça, tout le monde le sait. Hein, quand on n'est pas comme les autres, on est tout de suite montré du doigt, c'est pas facile. Est-ce que c'est plutôt dans ce sens-là où c'est... où il peut y avoir du déni, tout simplement.
Il y a les deux. En fait, le problème de la surdité, c'est que c'est un handicap qui n'est pas visible. Donc pour les gens, c'est pas un handicap. Sauf que c'est un handicap bien réel. Parce que vous regardez, hein, mais vous croisez quelqu'un de sourd dans la rue qui vous demande un coup de main parce qu'il sait pas où est sa rue. S'il a pas l'inscription marquée sur un papier, on va passer son chemin. Et ça, c'est de la réalité, malheureusement. Et c'est dommage. Alors, ça reste tabou dans certains petits cantons, hein, au fin fond. Mais
quand vous dites qu'on passe son chemin, ça veut dire que cette personne a une attitude particulière qui
ça
peut
fait
faire peur.
Hein, oui. Ça fait peur. C'est comme si les gens avaient la peste.
Ça dérange.
Ça dérange.
Parce que c'est une attitude qui est expressive.
Énormément. Ils sont beaucoup dans le mime, expressive. Dans la représentation. Et on peut les prendre pour des fous. Et c'est ça le problème.
Je suis sourde, je vis au pays des esgourdes, lasse, dans le silence où je me prélasse si tendrement, si calmement. À l'abri des redites, je respire en m'évite. Ces mots, n'entendent ces mots, à mon oreille sensible, tous ces mots sonatones. Ces mots, n'entendent ces mots, à mon oreille sensible, tous ces mots sonatones. Entendre le matin que tes mots si ronds, tes mots si ont ta voix si douce, je le sens me pousse à te tendre une oreille dans son simple appareil. Tes mots, nomme tes mots, à mon oreille sensible, tes mots, ton âme aimant, tes mots. Nomme tes mots, à mon oreille sensible, tes mots te nomment mes mains. Alors tous les faussaires tendrement. J'attends le moment, l'instant sans pareil, où je te prête une oreille.
Nous, on a eu l'expérience, tu te rappelles, dans le train. En fait, on reprenait nos cours, tout bêtement, dans le train, et on n'oralisait pas, on ne disait rien.
Et on n'a pas fait exprès, hein. On répétait notre langue des signes, notre truc, et on a vu des pères d'yeux se tourner vers nous.
On aurait dit qu'on était des pestiférés,
en fait. Oui. Alors, quand même un regard.
Oui, et ce regard-là, vous le prenez justement de manière négative ou c'est plus de la curiosité?
Non, c'est négatif. Hein. Ce qu'on a vu dans le train...
Nous, ce qu'on a vu, c'était négatif. Et ce qu'on a entendu, alors ce qui est bien, c'est que nous, on a entendu parce qu'on est entendant. Et quand on s'est levé, on a dit « Au revoir, messieurs, dames, et bonne journée. » Vous auriez vu leur tête, mais nous, on était écroulés. Et voilà. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de pouvoir aider des personnes sourdes à la gare de Blois, qui est en difficulté, et la personne qui était en face au guichet avait du mal à se faire comprendre. Et on avait bien discuté, hein, on avait bien échangé avec une des guichetières qui savait qu'on faisait la langue des signes, et puis son collègue le savait. Et moi, elle me fait signe. Et en fait, j'ai une certaine fierté. Je suis passée devant tout le monde, en fait, et j'ai été voir cette personne qui était en difficulté. Et en langue des signes, je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. Il me dit oui, parce qu'il voulait aller à un endroit précis, sauf que le train qu'il voulait... ce jour-là n'était pas achetable parce que le trajet n'était pas le même que celui-là d'habitude. Donc il était complètement perdu. Donc je l'ai aidé, il m'a dit merci je ne sais pas combien de fois. Et j'ai senti une main qui m'a retapotée sur l'épaule en me disant « je me suis trompée ». Quand il a vu que je signais et que j'oralisais, du coup c'était plus aidant. Mmh. Et en fait, quand on croise quelqu'un de sourd et quand on leur dit bonjour en langue des signes, mais alors leur visage, c'est...
On a des rayons de soleil.
Ah, ouais.
Ah oui, oui. Ouais.
C'est une expérience auquel on n'oubliera pas. Hein.
Non.
C'est clair.
Donc, vous êtes en train de souligner que non seulement la surdité en soi provoque une espèce de solitude, mais si en plus, personne ne fait attention à eux, ça peut être assez terrible.
Ah oui.
Pour ces personnes-là. Alors, pour briser ce tabou, est-ce que l'histoire de ces structures, c'est une chose, mais c'est les mentalités finalement qu'il faut essayer de changer. Mais c'est valable finalement pour
tout en les handicaps.
Finalement la différence. On peut étendre finalement ce sujet à toutes les différences.
Oui, tous les handicaps sont touchés. Oui,
tout à fait. Donc, je reviens à votre association. Est-ce que vous avez à cœur de porter justement ce message, quelque part, message de tolérance?
On l'a à cœur à 200%.
Voilà. Oui. C'est tout jeune, hein, effectivement, comme vous le disiez, mais vous avez imaginé quelque chose, hein, peut-être des plans d'action, des messages, justement?
Alors, ça va venir.
Oui.
Là, on...
Vous êtes combien, là?
Alors, pour l'instant, on est 4 au niveau du bureau.
Ouais.
Donc, tous les bénévoles sont les bienvenus. On demande une adhésion de 5 euros. Ceux qui veulent nous donner plus, ce sera tout bénef.
5 euros minimum. Voilà.
5 euros minimum.
À partir des 5 euros, d'accord.
Et toutes les âmes qui veulent venir porter notre association et nous aider.
Oui.
On n'est pas là pour remplacer les autres associations existantes.
Non, surtout pas.
On est là pour faire un relais. Hein. Surtout, nous, c'est le relais de faire remonter les différences, de partager nos expériences, parce que on n'est pas les seuls parents à être dans ce cas-là. Les difficultés, tous les parents d'enfants sourds ou malentendants, ils les ont. Et venez nous voir, on va partager les choses. Et les connaissances des uns et des autres vont faire qu'on va faire évoluer notre association, la faire connaître, et puis bienvenue, tout simplement. On va faire quelques petites choses, c'est en cours de construction, donc
oui, bien sûr.
Pour l'instant on n'a pas de date, mais on a l'intention de faire au moins deux soirs de présentation de l'association.
Deux moments d'information.
Voilà, deux moments d'information, donc n'hésitez pas à venir sur Nos Mains nous parlent sur Facebook, on mettra les dates, on mettra les petites choses. Et pour toutes les autres questions, on a notre adresse mail qui s'appelle nosmainsvousparlent@gmail.com. Et
On mettra les coordonnées sur la page de Studio ZEF. Est-ce que vous avez eu écho de choses justement qui vont dans le bon sens? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'à Tours, il y a un collège qui accueille des ados. Il y a l'école Raphaël Perrier. Et est-ce que vous avez entendu parler de structures qui pourraient éventuellement...
À Orléans.
À Orléans.
Il y a la Maison des Sourds.
Hein. Oui, il y a l'Association des Maisons des Sourds, et puis il y a l'IRGS, l'Institut Régional des Jeunes Sourds.
Alors, ce sont par exemple des lieux où les gens peuvent s'adresser justement pour avoir aussi des conseils.
Oui, aussi. Pour ça que je disais, sur Blanc, on a la chance d'avoir le CIS, hein, le Centre d'Action d'Information sur la Surdité, qui eux font un énorme travail de relais. Après, ce qui est au niveau des maladies rares, vous avez le relais handicap d'Orléans, qui est aussi de très bons conseils et qui viennent en complément. Surtout, ils viennent en complément. C'est-à-dire que pour la construction des dossiers MDPH, hein, on sait que c'est très compliqué.
MDPH.
Pardon, Maison départementale des personnes handicapées, excusez-moi.
Donc c'est une instance qui...
De l'État.
De l'État.
Qui siège sur, au niveau de la surdité, qui donne leur accord, qui donne l'allocation d'enfants handicapés aussi.
Reconnaissance de la surdité.
Reconnaissance tout ce qui de la surdité et du reste.
Donc ils consultent les dossiers.
Ils consultent les dossiers, les épluches.
Voilà.
Les parents sont aussi à même... Alors je vais être aussi technique là, parce que c'est un terme, mais c'est les CDAPH. Ne me demandez pas le terme, je ne le connais pas. Tout ce que je sais, c'est
des commissions.
C'est des commissions voilà, auxquelles les parents peuvent... Ils ont 10 minutes, un quart d'heure pour exposer leurs problématiques face aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc c'est tout handicap confondu hein, aussi. Donc sur le plan scolaire aussi, puisqu'on peut donner notre point de vue en tant que parent. Moi, pour l'avoir fait, c'est très impressionnant.
C'est-à-dire ?
Bah, vous avez 15 personnes devant vous, vous avez 10 minutes pour exposer la vie de votre enfant. Au quotidien.
C'est comme au tribunal.
Mais c'est pourquoi ça. 15 personnes ? C'est qui tous ces gens ?
Alors vous avez l'inspecteur d'académie, vous avez le médecin AMDPH, vous avez l'assistante sociale qui est présente à côté de vous. Vous avez aussi des associations qui siègent au niveau des CDAPH. Vous avez des personnes lambda, il me semble. Enfin, voilà, c'est 15 personnes qui se réunissent, qui ont des connaissances au niveau du handicap. Et qui donne le oui ou le non.
Selon donc ce que vous exposez, quand vous disiez que vous aviez l'assistante sociale à côté de vous, ça veut dire qu'en amont, il y a un contact avec les travailleurs sociaux ?
Normalement. Et je reste très, très en recul, vous voyez.
Je vois. Enfin, j'entends.
Normalement.
Et il en existe, hein,
oui.
Les deux structures... Oui, deux structures associatives, hein, le CALM et le CAIS, qu'on a déjà nommé, ont leurs propres services sociaux.
Oui.
L'AMDPH aussi, après.
Mais ce n'est pas une obligation.
Non, mais ça aide beaucoup.
Ça aide beaucoup
à construire le dossier de l'enfant. C'est très important, parce qu'il faut cocher les bonnes cases, pas se tromper.
Voilà, et demander les compensations, les plus de compensations du handicap, c'est-à-dire que pour l'aménagement aussi de la maison, dire qu'un enfant qui est sourd ou malentendant, il existe des appareillages, mais qui coûtent excessivement cher. Juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, par exemple, un vidéoportail, c'est 499 €. Des détecteurs d'incendie, par exemple, c'est 139 € pièce. Mais vous n'avez pas que ça, vous avez le cube lumineux, vous avez le vibreur. Alors le cube lumineux, il a pour objet de... Voilà, quand ça sonne à la porte, faut que ce soit aussi en relais avec ce cube. Donc vous avez différentes structures. Hein. Celui-là qui me vient en tête, c'est Génil, qui a été une fondation qui a été créée par une personne sourde. Voilà, pour les aménagements de la maison, mais vous avez aussi Donc ce cube lumineux, j'en reviens au cube lumineux du coup. Quand ça sonne à la porte avec le vidéoportail, hein, ça fait des flashs tellement importants qu'on ne peut pas ne pas les voir. Et en plus, vous avez le vibreur de poche qui se met à la ceinture, dans la poche, peu importe, qui vibre aussi. Donc l'enfant peut être dehors. Ah, bah tiens, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, je peux aller voir. Ça lui laisse une certaine autonomie, mais pour nous, une certaine sécurité. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses.
Donc il y a effectivement un coût
qui est
important.
Énorme, qui est énorme.
Pour le bien-être. Les appareils auditifs.
Voilà. Ne serait-ce que pour les appareils auditifs. Hein,
alors, les appareils auditifs, justement, parce que c'est un peu... même si je pense qu'effectivement, c'est quand même assez précis et ce n'est pas fait par n'importe qui, mais c'est quand même difficile de savoir de quoi a besoin une personne malentendante ou sourde.
C'est pour ça que nos médecins ORL, hein, que ce soit sur Blois, à l'hôpital Le Blois, que ce soit... à Clocheville, à Bretonneau, à Trousseau. Il est important de consulter ces spécialistes qui, eux, vont donner l'ordonnance de test d'appareillage auditif, mais qui vont aussi, par l'audiogramme, donner le degré.
Évaluer le
degré. C'est-à-dire que quelqu'un qui entend correctement entend à 20 décibels. Mais plus ça monte, moins on entend.
Alors plus ça monte, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que vous passez au seuil des 40 décibels et vous êtes en surdité moyenne. Vous passez aux 60 décibels, vous êtes en surdité sévère. Et au-delà de 80, c'est surdité profonde. Mmh. Donc, on n'entend plus rien. Par exemple, je vais vous donner une idée, hein, mais quelqu'un qui est en surdité moyenne, nous, on va entendre, vous avez rendez-vous chez le docteur. Eux, ils vont entendre, ou AE, rendez-vous odoteux. Et plus ça monte,
oui. C'est haché.
Ouais. Plus c'est haché. Ouais, la surdité, la surdité sévère, ça va être ENE, ODE, ODO. C'est saccadé. Alors, non, je ne suis pas en élocution.
Non, c'est très intéressant.
C'est pour faire comprendre, en fait.
Bien sûr, ouais. Bien sûr, c'est très intéressant parce que...
Puis plus ça va, plus on entend. Alors, nous, on entend correctement. En surdité moyenne, on sent les vibrations, on sent certaines choses. On perçoit certains bruits de son. Bruit de fond.
Ça peut être des bruits aigus comme des bruits graves.
Après, vous avez les hypoacousies aussi qui rentrent dedans et les hyperacousies. Donc, c'est encore d'autres choses.
C'est d'autres choses, oui.
Les acouphènes.
Les acouphènes,
oui, quand ça siffle dans l'oreille.
Quand il y a un bourdonnement dans l'oreille en constante. Donc, les appareils auditifs, ils sont là pour essayer d'améliorer le quotidien, mais pas de remplacer son oreille. L'oreille interne ne peut ne pas être touchée. On ne peut pas l'expliquer.
Ouais.
Maintenant, voilà, y a les implants cochléaires maintenant qui sont de plus en plus.
Oui, alors ces implants, c'est-à-dire, c'est quoi ?
C'est-à-dire que les enfants ont un aimant au niveau du crâne. Il y a une opération qui est faite au niveau de l'oreille, au niveau de l'oreille interne, pour relier tout ça. Moi, je vous dirais que je suis contre.
Moi aussi.
Parce que c'est bien et pas bien, en fait.
C'est quelque chose que vous ne pouvez pas enlever, contrairement à un appareil.
Alors, vous pouvez l'enlever, sauf que vous avez l'aimant...
Qui reste à vie.
Qui reste à vie sur le crâne, en fait. Pour une petite fille, on arrive un peu cachée, avec les cheveux, et encore, on ne peut pas faire toutes les coiffures. Après, c'est la science qui évolue. Donc, moi, je suis contre. Des parents seront pour.
Oui, c'est un avis personnel. Oui, ça,
c'est mon avis, personnel. Après, je ne dis pas que ça n'améliore pas certaines choses, mais moi, je ne verrai pas mon enfant avec un implant cochléaire.
Oui, et puis il y a peut-être des personnes qui acceptent cette
qui acceptent cochléaire. Ça, oui. Il y en a qui trouvent un confort. Hein.
Oui.
Mais ça ne remplacera pas l'audition correcte.
Donc, c'est le médecin, le spécialiste qui prescrit les appareils au niveau remboursement. Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que c'est comme les lunettes et les dents, il faut avoir une mutuelle ou même pas ?
Il faut avoir une mutuelle.
Oui, il faut avoir une mutuelle, une très, très bonne mutuelle.
Une très, très bonne mutuelle. Et encore, il y a des choses qui peuvent être prises en compte par la MDPH.
Il faut être bien reconnu au niveau du handicap.
Il faut être bien reconnu au niveau du handicap.
C'est-à-dire qu'il y a la MDPH octroie un pourcentage, handicap, et ça va déterminer le taux de remboursement.
Alors, il faut savoir qu'avec les appareils auditifs, il y a différents prix. Moi, un jour, j'ai quelqu'un qui me dit « Oh, ça ne coûte que 200 euros. » Il faut rajouter un zéro, oui. Un appareil auditif, donc au minimum, peut aller de 800 euros, mais sur certains appareillages, ça peut monter très haut. Moi, pour ma fille, par exemple, c'est 4 000 euros, les deux appareils. Tout n'est pas pris en compte.
Puis il ne faut pas qu'elle grandisse trop vite.
C'est ça, parce qu'il faut changer les appareils. Pour les personnes adultes, on dit qu'il y a des choses qui sont faites avec des choses spécifiques, hein, comme le fond FIP, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Parce que quand on voit qu'un appareil auditif, voilà, coûte, on va faire une moyenne de 1 500 euros par appareil. Mais à côté, il faut rajouter d'autres choses. L'aménagement pour la maison. Il peut y avoir aussi un dispositif qui est les boucles magnétiques. Vous avez différentes boucles magnétiques. Pour les enfants, en l'occurrence, vous avez les boucles magnétiques. Donc l'enfant a comme un MP3 qui est autour de son cou. La maîtresse a la même chose. Et l'enfant peut augmenter ou diminuer le son selon s'il y a du bruit, selon s'il s'entend moins bien. Si les piles fonctionnent moins bien de l'appareil auditif, alors faut... Les enfants, en général, ont tous un boîtier avec des piles de rechange. Parce que quand ils disent « Quoi ? Tu me dis quoi ? Tu m'as dit quoi, maître ? Maîtresse, j'ai pas compris.
»
Au bout d'un moment, et puis ça fait un petit bruit aussi de sifflement. On a la chance d'avoir quelques audioprothésistes qui sont très bien.
On en trouve à Blois ?
Vous avez Entendre.
On n'est pas obligé d'aller Tours ou à Orléans.
Non. Vous avez Entendre, par exemple, qui est M. Benoît Bougerolles.
Il est situé où ?
Il est situé à Saint-Gervais-la-Forêt.
Oui, d'accord.
Voilà. Et vous avez Audica, vous avez Audilab.
Oui, parce que quand on voit ces magasins et qu'on ne connaît pas du tout le sujet, on pense que c'est juste pour les personnes âgées.
C'est ça, mais
qui n'entendent pas bien.
Il y a tout âge.
Et en fait, voilà.
Ça sert à tout le monde.
Ça sert
Et puis maintenant, ils ont un design, des couleurs. Donc, ils peuvent mettre du rouge, du bleu, du vert, du bariolé, du multicolore. Puis il existe différentes formes. Vous avez l'appareil auditif qui va aller au niveau du conduit auditif, qui va passer derrière, auquel l'appareillage est derrière. Mais vous avez aussi, pour ceux qui veulent que ce soit discret, les petits appareils qu'on met dans l'oreille. Il y a juste un tout petit bout qui ressort. Et ça, c'est pour les personnes qui ont vraiment...
Oui, mais c'est bien que le côté esthétique soit pris en charge.
Bien sûr.
Ça, c'est clair.
Une question me vient justement dans la vie quotidienne des adultes sourds ou malentendants qui vivent leur vie de tous les jours, qui vont au boulot le matin. Comment ça se passe pour eux? Parce qu'on dit que les structures sont manquantes pour les enfants, mais les adultes...
Pour un entretien, c'est difficile s'il n'y a pas d'interprète. S'il n'y a pas quelqu'un qui signe à côté, qui peut exprimer. Après, vous avez Cap Emploi, qui est aussi une structure qui accueille toute personne en situation de handicap. Mais c'est vrai que nos personnes sourdes ou malentendantes sont des battants.
Oui, ils ont
intérêt. Ils ont un courage et un mérite auquel je les salue.
Parce que les entreprises ne jouent pas forcément le jeu, on le sait bien.
Hein, ils ne jouent pas le jeu du tout.
Ils ne jouent pas le jeu du tout.
D'accueillir...
C'est pas évident. Hein.
Les personnes handicapées.
Tout handicap confondu. Ouais. Et la surdité, je dirais encore plus, parce que du coup, il y a la barrière de la langue. Hein. Tout le monde n'a pas la formation langue des signes. Même s'ils arrivent à se faire comprendre, hein, quand ils ont envie de dire quelque chose, en général, on le comprend tout de suite au visage.
Ouais.
Il n'y a pas besoin de...
Mais concrètement, il y a des choses qu'une personne sourde ne peut pas faire. Il y a des métiers qu'ils ne peuvent pas exercer.
Alors, je dirais qu'une personne sourde peut faire tout type de métier. Regardez, on a Virginie Delalande, qui est la première avocate sourde de France.
Mais il faut qu'ils aient les moyens de pouvoir aller au lycée, à l'université.
Il faut qu'il y ait des choses derrière. Nous, on est des parents, des grands-parents qui sont derrière nos enfants. La problématique, elle est là, c'est que les adultes sourds, s'ils n'ont pas eu un cursus et des aides avant au niveau scolaire, comment on fait pour les aider?
Ils se retrouvent dans le monde adulte complètement perdu.
Perdu. C'est-à-dire qu'une personne sourde, elle est comme nous. Elle fait la fête, elle boit, elle conduit aussi.
Oui, elle a le droit de conduire.
Il y a des aménagements qui sont faits spécifiquement. Ils ont le droit de conduire. Et on a connaît quelqu'un qui est sur Orléans, qui a son auto-école, Adrien Soto.
Donc ce monsieur
a une auto-école. Et il a une spécificité, c'est qu'il a la langue des signes en plus.
Et il fait passer donc les permis de conduire à des personnes sourdes.
À savoir qu'il n'y a pas énormément d'auto-écoles en France. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont trois sûrs. Donc, il y a Marseille, Paris et Orléans. Et c'est des personnes comme ça et comme nous qui se battent pour nos enfants, qui se battent pour qu'ils aient un avenir et pas les parquer, comme certaines personnes pourraient le dire. On va les mettre dans une classe que de sourds et de malentendants. Je dis « et » là parce qu'ils les mettent dans les parcs. Mais je dis « mais un enfant, c'est pas comme un mouton, c'est pas comme une vache, hein. Pardon. Hein. »
C'est-à-dire que pour vous, il faut que ça se mélange.
Ils ont besoin d'être... Alors, on parle des pôles d'inclusion scolaire. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus.
Beaucoup.
Mais ils se battent pour les bonnes raisons. C'est l'éducation nationale et le ministère de l'éducation qui décident.
Qui décident de quoi?
D'ouvrir des classes sous liste de la trouble des fonctions auditives, des troubles à fonction cognitive. Les troubles à fonction cognitive, il y en a partout. Mais des troubles à fonction auditive. Vous regardez sur un site qui s'appelle ANSES, il me semble, et vous verrez les pôles d'éducation des jeunes sourds, il y en a très peu. Ceux qui ont la langue des signes, il y en a très peu. Alors pourquoi faire des kilomètres et des kilomètres alors qu'avec une simple réflexion et une rencontre avec, un appel, peut-être un petit appel à la rectrice d'académie de venir nous voir et d'en discuter, par exemple, à nos politiques? À nos maires, à nos députés, venez nous voir, on va en parler.
Alors ça, justement, ce sont des actions que vous comptez mener.
Par la suite, peut-être.
Qui ont déjà été
Peut-être par la suite.
Qui ont déjà été faites.
On y va par étapes, tranquillement.
Ça a déjà été fait, il me semble.
Oui, mais pas assez. Il y a toujours besoin d'un rappel.
C'est sûr.
Les personnes changent, donc.
En tout cas, il y a eu des actions.
Il y a des actions qui sont faites.
Mais qui n'en sont pas peut-être.
Au jour d'aujourd'hui, les AVSH, ceux qui interviennent auprès de nos enfants.
Accompagnants, à l'éducation.
Spécialisés. Les enfants handicapés, je crois.
Oui, spécifiques aux handicapés.
Voilà, donc ce sont des personnes qui
accompagnent dans la classe. Avec un enfant
individuellement,
en handicap.
Voilà, elles sont soit dispatchées avec différents horaires sur différents établissements. Je dirais que la formation manque. Je dirais que la formation linguistique manque. Je touche un point sensible, pardon. Mais c'est le constat qu'on fait au jour d'aujourd'hui. Pas de formation, y a rien, quoi.
Alors, il y a des formations, mais d'après ce que je sais particulièrement depuis très peu de temps, c'est plus des informations sur les handicaps que du comment être vis-à-vis d'un enfant handicapé, quel que soit son handicap. Là, ça pose problème. Il y a des personnes qui vont comprendre, entendre dans leur peau comment se comporter. Il y en a d'autres, elles ne comprendront pas.
Alors, ce serait quoi pour vous le monde idéal pour l'accueil des...
Eh bien, que la langue des signes française soit reconnue concrètement et qu'il y ait des formations spécifiques, mais faites dans tous les secteurs d'activité.
Ah ouais.
Alors, il y a eu une loi quand même.
Oui, il y a eu une loi.
La LSF était officielle en 1991, je crois.
Il me semble, oui.
Mais c'est resté très succinct. Enfin, on l'a un petit peu caché. C'est pas obligatoire.
On passe.
C'est une,
reconnaissance de la langue, langue des signes française.
Ouais. D'accord. Cette reconnaissance, elle passerait par quoi ?
Alors, c'est reconnu comme une seconde langue. Elle a été reconnue comme une seconde langue. Mais
il n'y a pas assez de choses de fait.
Vous allez sur un moteur de recherche, traduction, chercher LSF. Il y en a très peu. C'est vraiment des applications liées à la langue des signes et aux sourds ou malentendants.
Moi, j'ai eu la chance avec Visuel LSF d'avoir des formatrices, mais alors en or. Quand y a une personne est sourde, il y a souvent une acuité visuelle qui est en cours aussi, c'est-à-dire qu'une personne sourde ou malentendante a aussi des problèmes visuels associés, ça arrive. Et en fait, lors de cette formation, on a touché handicap sous deux formes. Déjà, d'entrer dans un monde auquel on n'a aucun bruit, c'est très déroutant.
Pour un entendant, c'est affolant.
C'est affolant, hein. Quand on ressort, on est complètement à l'ouest. Et puis de l'autre côté, il y a le côté humain. Et le côté humain, ils sont là pour nous booster et puis nous faire évoluer dans les choses. Alors ils nous mettent au défi, hein. Faut pas croire que c'est simple, hein. Ils nous mettent au défi, hein. Mais en fait, de les voir raconter une histoire drôle en langue des signes, mais alors, on se met vraiment dans la peau du truc, quoi.
Il faut savoir quand même que la LSF, langue des signes française, c'est très compliqué pour un entendant.
Oui.
Les phrases ne sont pas construites comme nous, en français, parler, signer.
Par exemple.
Parler, écrit, pardon. Vas-y.
Par exemple, nous, on va dire, je vais aller chercher le pain. Chez quelqu'un qui est malentendant ou sourd, c'est moi, pain chercher. On va à l'essentiel.
Oui.
Nous, on dit, où sont les toilettes ? Ça va être, moi, je vais aller faire pipi, quoi. Ouais. C'est du direct.
Hein. Ouais. Il y a plein de choses comme ça.
Ils vont à l'essentiel. Il n'y a pas de grammatical comme nous, on fait. Il n'y a pas sujet, verbe, complément. Eux, c'est je vais à l'essentiel et le verbe est toujours positionné à la fin.
Ouais.
Quand vous dites langue des signes française, ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la langue des signes n'est pas universelle.
Non,
parce que chaque...
Elle l'a été au début.
Oui.
Enfin, il y a eu un moment au début de la langue des signes universelle où ils ont commencé plus ou moins à faire un truc universel, mais pof, c'est tombé à l'eau pour la bonne et simple raison, et moi je le comprends un petit peu. Chaque pays a sa culture. Il y a des mots bien précis. En anglais, vous n'allez pas dire le même mot qu'en français, qu'en allemand.
Et ben, langue des signes, c'est pareil.
Il faut savoir que même entre deux régions ou deux grandes villes, un signe peut être différent.
D'accord. Selon le contexte.
Parce que c'est marrant, parce qu'on pourrait croire que ça pourrait être universel justement parce qu'on va à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on utilise l'action comme principal objectif pour montrer, pour dire ce qu'on veut dire, ce qu'on veut faire. Donc on pourrait imaginer, mais pas du tout en fait.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Même un sourd qui va, je vais dire n'importe quoi, en Roumanie, il va se trouver paumé, même s'il a quelqu'un qui sait parler en langue des signes, mais roumain.
Ouais.
Il n'y arrivera pas.
Ouais.
Après, ils arrivent à se comprendre.
Ouais.
Oui, il y a toujours des choses. Ils caricaturent beaucoup leur histoire.
Oh là là, mon Dieu, ils caricaturent beaucoup. Ouais. Et puis, il faut savoir qu'en langue des signes, eh bien, on ne s'appelle pas par nos prénoms. C'est-à-dire qu'on signe notre prénom, mais on va nous attribuer un signe. Et ce n'est pas nous qui allons le choisir en général, c'est eux qui nous le donnent. Et c'est là où c'est très enrichissant. On s'est retrouvé des fois avec des signes un peu bizarres.
Alors c'est eux qui vous le donnent en fonction d'une caractéristique physique. Oui.
Physique ou d'une gestuelle.
D'une gestuelle.
Ou morale, ou la façon de se comporter.
Voilà, Carole, c'est la blonde. Ou la pipelette, ça dépend des fois.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, j'ai un autre signe, bien plus précis.
Allez, vas-y.
C'est le cas. Alors, c'est dommage parce que vous ne voyez pas, mais en langue des signes, c'est le cas. Et en fait, on le tourne parce que j'ai les cheveux qui frisent. Donc, un peu comme le caniche. Donc, du coup, c'est le cas qui se retourne.
Donc voilà. en fait, vous êtes en train de faire un cas avec trois doigts.
Vous avez l'index et le majeur qui font un V entre guillemets et le pouce vient au milieu fait le cas.
Et en fait, moi je le tourne. C'est ça.
Voilà. Alors ça c'est l'alphabet, la langue des signes qui s'appelle la dactylologie.
C'est ça.
Donc il y a tout l'abécédaire
entre
français.
Les acronymes et les...
C'est ça. Et il faut dire que des fois, ça nous arrive de nous tromper entre le T et le F. Très régulièrement, on se trompe en disant « Ah, tu vas frater au lieu d'autre chose, par exemple. »
Mais ça leur arrive aussi.
Oui, mais ça nous fait très rire. Et puis aussi, donc c'est ça, l'échange est bien. Puis quand on ne sait pas, on dit « Oh, pardon, pardon, pardon. » Donc pardon, en fait, c'est se frotter les deux mains l'une contre l'autre devant et tourner, en fait. On verra par la suite ce qu'on fera au niveau de l'association.
Oui, parce que ce qui est important quand même, c'est que vous impulsez une nouvelle dynamique sur le territoire. Et donc, ça gagne à être connu quand même. Surtout si vous faites le relais face à des gens qui sont enfermés dans un tabou, dans une errance aussi.
Oui, tout à fait.
Pour toute
personne. Puis un déni du handicap aussi. On ne va pas montrer notre enfant alors qu'il est sourd. Il regarde partout. Ça peut être terrorisant pour une personne dite normale de voir un enfant qui regarde comme ça partout.
Donc très observateur. Plus vous en parlerez, et peut-être
plus la communication se fera.
Voilà, et ça sera moins effrayant pour le commun des mortels.
Oui, tout à fait.
Voilà. Est-ce qu'on peut revenir, parce qu'on va s'acheminer là doucement vers la fin de cette émission, est-ce qu'on peut revenir sur... D'abord, je voudrais vous demander si vous avez quelque chose à rajouter avant de terminer.
Alors, nous, on va simplement remercier Gilles Vieira.
Oui, qui
nous a aidés à la création, qui grâce à lui, en fait, nous a, excusez-moi l'expression, mais donné un bon coup de pied dans le cul, entre guillemets, pour nous lancer, parce qu'il a vu que... Et il est touché, certes, il est candidat à la mairie de Blois, c'est tout.
Mais on n'est pas politique du tout.
Mais il est axé sur le handicap. Et en fait, il nous a aidés à faire cette construction. Et on le remercie parce que il a été à notre écoute. Il nous a accompagnés, il nous a emmenés, il nous a poussés. Et je pense qu'il nous poussera encore par rapport à l'association. Il nous a poussés, on le remercie chaleureusement. C'était notre petit coup de cœur. Et puis, on remercie aussi les associations ENH, Le Calme et bien d'autres.
Le CAIS.
Tous ceux qui nous aident à construire et qui savent que maintenant, on a un relais aussi parce qu'eux aussi sont en situation auquel ils ont tous les handicaps confondus. Et que quand ils ont des personnes en surdité, ils ne savent pas comment les aider. Et que du coup, maintenant, ils savent que nous, on est là et on est là pour faire un relais et pas prendre leur place. Et ça, c'est important de le souligner. Nous, on est là pour faire le relais des parents, en tant que parents, en tant que grands-parents, mais aussi les amis de la famille, parce que c'est un complément.
On peut conseiller les parents dans ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. C'est surtout ça.
D'accord.
Qu'ils aient un autre avis que dans leur cocon. Ça, c'est très important.
Alors concrètement, donc nosmainsvousparlent@gmail.com pour l'adresse mail, le Facebook.
Pour l'instant. Nos mains vous parlent.
Sur Facebook, il y a le Gmail.
Oui. D'accord, très bien.
Il y a tout.
Bon, on mettra ça sur le site de Studio ZEF. Il me reste à vous remercier chaleureusement d'être venu nous parler de cette association toute neuve et nécessaire. Moi, je vous invite à revenir sur le plateau du Studio ZEF dans quelques temps pour nous dire comment ça a évolué.
Non, pas de souci, maintenant qu'on est habitué.
Voilà, ça a été pour une première.
Ça a été pour une première. En tout cas, on vous remercie beaucoup de votre accueil.
J'aimerais juste dire, on a nos deux petites collègues du bureau qui ne sont pas là, mais j'aimerais les prénommer quand même.
Bien sûr.
Natacha, qui est trésorière, et Marie, qui est la secrétaire. Donc, Carole est la présidente de l'association et moi, Corinne, la vice-présidente.
Voilà. Bien, on salue tout le monde.
On leur fait des gros bisous parce qu'elles n'ont pas pu être là.
Cette émission spéciale sur Nos mains vous parlent est terminée. C'est dans la rubrique Tous au poste. Tous au poste, je rappelle, est un moment un créneau participatif sur la radio. Donc, si vous êtes producteur d'émissions déjà aguerri ou novice, vous pouvez tout à fait proposer une émission sur une thématique dont on discutera ensemble. Comme voilà, c'est un exemple. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait ouvert. C'est Studio Zef, quoi. Voilà. Allez, bonne soirée à tous.
Merci
à bientôt.
Merci à vous.
À bientôt à la radio. Au revoir.